Entre nous soit dit, une émission présentée par Fabrice Adjadj avec Bénédicte Matona. Dans Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, on connaît un peu et on apprécie même la figure du sonneur de cloche, même si dans la réalité, devant cette figure, on détournerait sans doute les yeux. Quasimodo est contrefait, bossu, boiteux, borgne de naissance et devenu sourd du fait de son emploi. Or, il est une scène où le hideux Quasimodo se trouve face à la belle Esmeralda et où, entre eux deux, se tient l'animal de compagnie de cette dernière, la petite chèvre Djali, dont elle caresse la tête. Quasimodo aimerait bien être caressé, comme une simple bête, mais il fait horreur à la jeune femme. Et voici ce qu'écrit Victor Hugo. Il resta quelques moments pensif devant ce groupe gracieux de la chèvre et de l'égyptienne. Enfin, il dit en secouant sa tête lourde et mal faite, « Mon malheur, c'est que je ressemble encore trop à l'homme. Je voudrais être tout à fait une bête comme cette chèvre. » Le handicapé, le monstre d'aujourd'hui, pourrait se faire la même réflexion que Quasimodo. Jamais on ne s'est autant soucié des bêtes, mais le plus souvent, la tendresse que nous accordons à nos chiens et à nos chats, nous ne l'accordons pas aux personnes handicapées, parce que devant elles, nous mesurons l'écart avec la norme de l'humain. Pour éviter de se trouver face à nos contradictions ou dissimulant ces contradictions sous une compassion revendiquée, nous empêchons les handicapés de naître. Et s'il fallait, au contraire, accueillir le handicapé comme le garant de la singularité humaine, s'il était celui qui, mieux que n'importe quel théoricien, nous apprend à aimer les hommes sans vouloir les réduire à une certaine définition de l'homme et ni à exclure certains d'entre eux au nom de cette définition. Pour réfléchir avec nous, aujourd'hui, nous accueillons Bénédicte Matona. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes docteur en philosophie, titulaire de la chaire de philosophie de la nature à la Faculté libre de philosophie comparée, plus connue sous le nom d'IPC à Paris. Et vous êtes aussi membre du mouvement Foi et Lumière, qui cherche à vivre la communauté avec des personnes souffrant de handicap mental. Alors, s'il est certain que Quasimodo est plutôt affligé d'un handicap physique et non mental, on peut éprouver la même réticence, la même résistance face à la présence d'un handicapé mental. Est-ce que vous pourrez d'abord nous expliquer un peu comment on vit dans ce mouvement Foi et Lumière et en quoi consiste justement cette communauté?
Oui, le mouvement Foi et Lumière existe en partant d'un constat simple, c'est que justement nous sommes dans la même humanité, nous sommes à égalité. Et que la personne qui a un handicap, elle n'est pas moins une personne que moi. Alors j'ai été très touchée en écoutant Quasimodo, parce que c'est vrai que la personne handicapée mentale, elle est aussi contrefaite physiquement, d'une certaine manière. Elle a des traits un peu spéciaux, elle ne parle pas très bien. La personne handicapée mentale ressemble aussi à Quasimodo. Et qu'on a, nous tous, je crois, cette difficulté que vous évoquiez de savoir comment être face à la personne handicapée mentale. Et à Foi et Lumière, voilà, le principe de la communauté, parce que je crois que c'est important que nous soyons en communauté, le principe de la communauté, voilà, c'est qu'on est ensemble. Que le handicap n'est pas ce qui est mis en avant. En fait, c'est Vincent, c'est Marie-Christine, c'est Isabelle, c'est
Jean-Michel. Les noms propres.
C'est des noms propres. C'est ça qui frappe à Foi et Lumière, c'est que tout de suite, et la personne handicapée rend ça sûrement possible, le climat est celui d'abord d'une rencontre entre des personnes. Le but étant de créer des liens d'amitié, donc d'être en relation.
Alors comment s'exerce justement cette vie ensemble? Ce sont des repas, ce sont des...
Alors, une rencontre de communauté, il y a trois temps, plus le quatrième temps. Les trois temps sont des temps de partage. Hein. Souvent, il y a un thème qui parcourt toute l'année. Hein, et puis chaque rencontre a un thème plus particulier selon le thème de l'année. Donc on prend un temps de partage sur ce thème, qui a toujours un lien, puisque c'est chrétien, avec l'ordre de la foi, hein, et la relation et la vie chrétienne. Donc on partage. Il y a ensuite, hein, en lien plus ou moins avec ce temps de partage, un temps de prière. Voilà, nous prions ensemble. Ça peut être la messe, mais ça peut être une prière qui est souvent très symbolisée, gestuée. La personne handicapée, elle a besoin que ce soit concret. Et puis il y a un temps de fête, hein, qui est souvent autour d'un repas. Mais pas seulement, on peut faire voilà, des danses, des jeux, des mimes, soit en lien avec le thème, soit pas en lien avec le thème. Donc c'est assez vivant, c'est assez varié.
Vous dites repas, pas seulement, mais alors je pourrais dire, comme si c'était pas grand-chose le repas, mais est-ce que justement la table n'est pas le lieu où l'on vit cette égalité, puisque voilà, il faut bien manger, nous mangeons ensemble, et ici il n'y a pas de hiérarchie à proprement parler, c'est... du côté de la conversation, du côté de l'affabilité.
Oui, et c'est même étonnant, comme dans certains cas, la personne handicapée est presque moteur de ce qui se passe pendant le repas. Alors, elle a quand même souvent besoin qu'on l'aide.
Bien sûr. Hein.
Mais j'évoque Vincent, qui est une personne trisomique, avec un peu d'autisme, et donc au début assez renfermée sur elle. Et donc, Foi Lumière, ce qui était très important pour elle, c'était qu'il y avait un pique-nique avec ses mets favoris, chips, poulet, coca et mousse au chocolat. Et quand sa maman lui disait « on va à Foi Lumière », elle disait « oui, le pique-nique ». Et puis il y a eu un moment donné où Vincent a dit, sa maman lui disait « on va à Foi Lumière », elle disait « oui, les amis ». Et au moment du repas, hein, chacun sort quand même ce qu'il a de son sac, Vincent prenait son paquet de chips, hein, ou prend son paquet de chips, et il passe. Oui, il distribue ses chips. Et je crois que c'était très important qu'on prenne de ses chips. Si on avait refusé, même pour lui laisser, il aurait été très malheureux.
Vous parlez de quelqu'un qui s'appelle Vincent, alors je ne peux pas m'empêcher de penser à Vincent Lambert. Et on pourrait dire qu'il y a eu au-dessus de Vincent Lambert, il y a toujours une sorte de conflit entre la mère et la femme, entre Viviane et Rachel Lambert. Et on pourrait dire que ce conflit est aussi lié à leur statut vis-à-vis de l'homme. Pour Rachel, c'est l'époux, et on est époux parce qu'on... on consent à l'être, donc on a une capacité de liberté, parce que aussi on est capable de prendre soin de sa femme. Et donc quand on se retrouve dans l'état de Vincent Lambert, on pourrait dire ce qu'on appelle un état possi-relationnel, c'est-à-dire avec, enfin, on n'est plus en état, en tout cas, d'entrer en conversation et de protéger son épouse ou ses enfants. Eh bien, on a l'impression que ce statut, d'une certaine façon, se modifie radicalement, on s'effondre. En revanche, la mère... son enfant, c'est d'abord celui qu'elle nourrit. Sa personnalité est vue à partir simplement du fait de se nourrir. Est-ce qu'on n'a pas justement trop méconnu cette dimension, je dirais, maternelle, on pourrait dire, du rapport à l'autre, où le fait de manger ensemble, la nutrition est le lieu de la communion, d'une communion humaine. Et d'ailleurs, même au plus haut, le Christ a voulu que la plus haute communion, même l'acte de contemplation parfait, soit aussi au sein d'un repas qui, d'une certaine façon, n'exclut personne.
Oui, je n'avais jamais réfléchi aux choses de ce point de vue-là, pour la nutrition et le lien, et la différence entre l'enfant et l'époux. Mais oui, dans la nourriture, en tout cas à Foi Lumière, c'est vrai, tel qu'on le vit. À la fois on est enfant, et on est tous enfants, on est tous nourris. Et à la fois on est les uns par rapport aux autres, les mères qui se nourrissent mutuellement. Hein, je crois, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup cet échange de ce qu'on a apporté, de ce qui nous nourrit. Oui, je crois qu'à Foi Lumière, on réalise cela, qu'à la fois on est enfant et on est mère, les uns des autres. Je ne sais pas si c'est un peu votre idée.
Alors, justement, vous êtes professeur de philosophie. Vous avez, justement, une capacité de réflexion, on pourrait dire, assez élevée, déployant un langage conceptuel. Or, précisément, ce langage, c'est celui qui échoue devant la personne handicapée. Alors, comment vous éprouvez, vous êtes face finalement à vos propres limites?
certaines limites, mais pas... je ne pense pas qu'on est face à ses limites devant une personne qui a un handicap, parce qu'elle ne peut pas exprimer ou elle ne peut pas comprendre la façon dont nous exprimerions certaines choses. C'est vrai qu'on est obligé de mettre une part de soi de côté. Hein, une part qui n'est pas utile à ce moment-là. Qui, c'est mystérieux, hein, mais qui ne sert à rien, au moins dans la relation immédiate. Ce qui est important, c'est d'être présent, d'être en relation. Et la personne handicapée nous demande très fort, est-ce que tu es avec moi en ce moment, hein, est-ce que tu es là, quoi, est-ce que tu es là pour moi, moi je suis là pour toi. Enfin, c'est vrai qu'elle est, elle, elle est là pour nous et elle attend que nous soyons là pour elle. Et c'est vrai que cette part qui est plus spéculative, qui a envie de comprendre, qui a envie de, d'expliquer ce qui se passe, d'interroger, ben, cette part-là, elle est à mettre de côté. Et en même temps, elle est toujours là. Je crois qu'avoir fait de la philosophie, même si ce n'est pas ce qui est nécessaire à Foi et Lumière, hein, je pense que, heureusement, il y a des gens qui n'ont pas fait de philosophie et qui sont experts à Foi et Lumière, au sens beau du terme expert. Je pense que d'avoir fait de la philosophie, moi, m'a aidé à peut-être accueillir encore plus le fait que, ben voilà, c'est Vincent, hein, c'est une personne.
Et est-ce que dans l'autre sens, votre expérience à Foi et Lumière n'a pas informé aussi votre travail de philosophe, justement ?
Si, et ce que vous disiez tout à l'heure, il semble qu'il y ait un fossé entre la personne handicapée et l'idéal qu'on peut avoir de ce qu'est un être humain accompli, qui justement utilise sa raison, est capable de prendre en main sa vie, de faire des choix, de s'engager vraiment en personne consciente, responsable. La personne handicapée mentale, elle est déficiente, hein, par rapport à ce développement qui semble inhérent à définir l'être humain. Et moi, ça me fait toujours prendre conscience de cette différence entre ce que dit le mot « homme », hein, qui me signifie comme appartenant à une nature. Alors on y reviendra, peut-être qu'on peut quand même définir l'homme. Et puis ce qu'est la personne, hein, personne dit, j'aime beaucoup l'expression de saint Thomas, personne, il dit, c'est un mot qui sert à désigner un individu très parfait. Et à dire l'individu, l'unique, hein, d'où le prénom. Une personne, en effet, elle a un prénom, puisque...
Mais le nom de personne n'est pas un genre.
Alors, le nom de personne n'est pas un genre, mais personne a une définition.
Voilà.
Hein, personne, c'est la substance individuée, oui, de nature raisonnable. Et en effet, qui dit, je m'appelle une personne et pas simplement un individu, parce que je suis unique, alors les chiens sont uniques, mais je suis unique dans ma capacité d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre. J'aime bien la formule qu'on connaît, je suis un jeu qui peut rentrer en relation avec un tu. Et le jeu, hein, le jeu en effet, je ne peux pas le faire rentrer dans une catégorie, au sens strict. Et la personne, hein, comme je crois que c'est Kant, hein, qui dit que la personne, elle est non pas hors de prix, mais elle est sans prix, et on ne peut pas comparer. Voilà, il n'y a pas une mesure qui permettrait de comparer des personnes. Elles sont là, et quand elles ne sont pas là, elles manquent. Voilà, il y a une présence qui manque, c'est tout. Hein, et alors que la nature humaine, en effet, on peut donner des caractéristiques, mais la personne est ce qui montre à quoi est appelé chaque être humain. Hein, nous sommes des personnes et on est appelé à vivre en personne. Donc ça a exprimé, la personne handicapée le fait vraiment bien, cette présence de ce qu'elle est.
La singularité de l'existence comme étant au-dessus de toute normativité, on pourrait dire.
Oui. C'est elle. Hein, et comme dit Piper aussi, je crois, hein, c'est bon que tu sois toi. Voilà. C'est bon que tu sois là.
Alors, deux choses à partir de ce que vous venez de dire. La première, c'est, vous avez dit, bon, c'est beau que tu sois là.
C'est bon.
C'est beau et bon.
Beau et bon.
Voilà. Piper dit justement que dire je t'aime, c'est dire il est heureux que tu existes, et donc de se faire l'écho de l'acte du créateur qui a créé par amour. Donc vraiment reconnaître et aimer ce qui est là, c'est d'une certaine façon devenir co-créateur, ou en tout cas réverbérer le verbe créateur. Mais malgré tout, vous avez dit, bon, c'est bon que tu existes, avec une adresse, mais parfois, Est-ce que cette adresse est entendue, reçue? Et vous avez dit aussi jeu, bon, un jeu ouvert vers un tu, mais parfois on est face à des handicapés, des polyhandicapés qui n'ont pas la faculté de dire je. Est-ce que dès lors on ne pourrait pas leur dire, ben voilà, ils ne sont pas vraiment humains, ils n'appartiennent pas vraiment à l'humanité commune, et donc leur vie, en plus douloureuse, ne vaut pas la peine d'être vécue.
Oui, c'est là où c'est très mystérieux, la personne humaine et la nature humaine, parce que je crois en effet qu'il faut renvoyer à la nature humaine pour pouvoir contempler la personne handicapée qui ne peut pas s'exprimer, qui est mutique. Pour les parents, c'est terrible, hein, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, on peut le pressentir, mais voilà, il n'y aura jamais l'échange que l'on pourrait espérer avoir avec un enfant normal. Il faut revenir à cette chose extraordinaire, quand même, qui est la nature humaine, et le fait que nous appartenons tous à cette nature humaine, et qui nous permet de penser que nous sommes des personnes, même s'il n'y en a pas les manifestations. Puisque la personne n'est pas simplement l'être humain, ce qui fait qu'il est une personne, c'est pas simplement qu'il a tel code génétique, qu'il a tel développement cérébral, même si c'est important et nécessaire. Ce qui fait la personne, c'est vraiment ce qu'en langage philosophique, à partir d'Aristote, hein, même Platon et Aristote, on appellera l'âme humaine, l'âme rationnelle, qui fait que nous avons en nous des capacités qui dépassent l'ordre de la stricte matérialité. Intelligence, volonté, capacité de saisir le vrai, de vouloir le bien, ce sont des capacités qui sont éminemment personnelles. Voilà. C'est moi qui dis que cela est juste, est vrai, est bon, et c'est moi qui me donne à cette personne, à cet autre. Voilà. Les capacités de la nature humaine qui font que je peux vraiment me considérer comme une personne, comme un sujet qui dit « je » et qui rentre en relation avec quelqu'un à qui il dit « tu », renvoie à ces principes de ma nature.
Alors justement, on a des capacités, mais on reconnaît l'existence d'une capacité quand elle passe à l'acte. C'est-à-dire, je sais qu'il y a quelqu'un qui a une intelligence s'il me parle. Ouais. Mais voilà, nous sommes face à quelqu'un qui ne parle pas.
Qui ne parle pas. Et c'est là où c'est mystérieux, c'est que nous ne sommes pas des anges. Ce n'est pas Fabrice Adjadj que je dirais que nous sommes des anges. Non, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des personnes, mais des personnes qui renvoient à une nature incarnée. Voilà, l'homme est par ailleurs un animal, un être animal. Donc toute la vie intérieure, la vie profonde, la vie spirituelle est constitutive, enracinée dans son incarnation. Et l'incarnation des personnes handicapées, elle est lésée. Hein, le handicap, les touches dans le corps... surtout l'organisation cérébrale, la capacité de former le langage, d'utiliser mieux leur sensibilité, leur imagination pour parler. Donc le handicap, il est dit au corps, et mystérieusement, il touche les capacités les plus personnelles qui, elles, dépassent conditionnement physique. Voilà, on est devant quelque chose de très très mystérieux, et qui en même temps me permet de dire, voilà, il est issu de parents humains. Son corps, par ailleurs, et il a bien le code génétique de l'appartenance à la nature humaine. Et donc, toute son existence est bien l'existence d'un être humain et donc d'une personne. C'est là où ce qu'on appelle la philosophie de la nature est capital pour, devant la personne qui ne manifeste aucun signe de conscience extérieure, de pouvoir continuer à être dans la contemplation d'une personne. On parle dans ces cas-là souvent de l'âme humaine comme d'un sanctuaire. Voilà. Il y a dans la personne qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui peut réagir quand même au toucher souvent, un sanctuaire.
Ce que vous dites me fait penser quand même à une certaine limite de la philosophie, qui est passée donc du côté d'une théorie de l'homme en général, d'une définition de l'homme en général, de l'homme comme sujet conscient. Donc, des deux côtés, il y a eu à la fois, on pourrait dire, d'un côté l'oubli du corps, l'oubli de l'appartenance à l'humanité par le corps, et pas simplement par la conscience ou par l'esprit en acte, je dirais. Et puis, de l'autre côté, vous l'avez dit, on reconnaît que c'est un homme parce qu'il est né de parents humains. Il y a dans la philosophie un oubli souvent de la filiation. L'homme est pensé comme un individu, et même à la limite, l'entrée en société est considérée comme un contrat passé entre individus qui ne sont pas des fils ou qui sont des frères sans père. Enfin, ouais, c'est toujours cette question hein, de la conception moderne de l'homme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que finalement, c'est une certaine forme de spiritualisme, de définition spiritualiste de l'homme qui peut conduire à un oubli, voire un mépris de la personne handicapée, et aussi une compréhension de l'homme en général, comme individu, appartenant à une espèce qui est une catégorie logique, mais en méconnaissant sa généalogie concrète, c'est-à-dire en oubliant que l'homme est d'abord un fils.
Ça, je crois que vous avez, oui, que c'est très très juste. Hein. Il y a vraiment eu cet oubli. On définit l'homme par l'autonomie. Voilà, le sujet, mais en effet, qui se pose lui-même dans l'existence et dans ses relations. Je crois qu'il y a Corinne Peluchon qui a très justement critiqué ces morales de l'autonomie et ces compréhensions de l'homme définies par l'homme comme un être autonome, hein, comme un sujet individuel sans attache. Elle insiste du coup sur la vulnérabilité qui est relative au fait qu'on est né de parents dans la chair et que on a, enfin, je ne sais pas si c'est exactement ce qui est important pour vous, mais on appartient à une espèce. Oui, on est frère en raison d'une filiation. Mais nous sommes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le décide ou non, nous faisons partie de la nature humaine, de l'espèce humaine, de cette aventure qu'est l'existence d'être humain.
Le mystère de la naissance, finalement, qui est d'une certaine façon méconnu au profit d'une autonomie qui serait presque, qui fantasme une auto-construction de soi.
Une auto-construction de soi. Tandis que là, on se reçoit de ses parents.
Mais justement, est-ce que se recevoir de ses parents ne suppose pas quand même une certaine forme d'activité, à la limite Les philosophies, certaines philosophies de l'autonomie, où la personne se définit par l'autonomie, je pense à Jean-Paul Sartre, par exemple, je suis ce que je fais, les choix que je fais, donc c'est ma liberté qui me constitue, mais en même temps, Sartre dit, reconnaît tout cet aspect de facticité, j'apparais au monde, j'ai pas choisi mon nom, j'ai pas choisi mon sexe, j'ai pas choisi mon corps, j'ai pas choisi l'époque ou le lieu dans lequel je vis, en naissant, je prends place, dit-il, mais je suis responsable de la place que je prends. C'est-à-dire, vraiment, j'ai aussi dans ma liberté pas simplement à fabriquer ou à inventer des choses, mais à assumer ce qui m'est donné, dont ma naissance. Chose qui, remarque de Sartre, qui avait beaucoup frappé Benny Lévy, qui était maoïste à l'époque, qui s'était éloigné de sa foi juive, et en entendant que la liberté était aussi dans l'assomption de la naissance, il s'est dit, mais alors, ma vraie liberté, c'est de reconnaître que je suis juif et de déployer ma judaïté. Un retournement qui après d'ailleurs aurait eu des effets, des répercussions sur Sartre, qui lui-même se serait interrogé sur sa propre pensée et sur son propre athéisme. Mais justement, en quoi la personne dont l'autonomie est brisée, pour prendre une expression de Corinne Peluchon justement, elle est dénuée de responsabilité ou de capacité d'assumer ce qu'elle est librement? Est-ce qu'elle n'est pas dans une passivité qu'on pourrait qualifier pour certains de quasi-végétative ou dans une sorte de détermination purement animale?
C'est une question que je me pose dans certains cas, avec certaines personnes handicapées. Je crois, et c'est là où peut-être le fait que nous appartenons à une famille humaine est important. Je crois qu'il y a déjà quelque chose qui peut passer de cette acceptation, de cet accueil d'une existence qui n'a pas été choisie par les parents. Je pense qu'il y a ici la médiation de justement la société. Peut-être que la personne elle-même, on ne sait pas, c'est très mystérieux, n'a pas du tout la possibilité d'accueillir l'existence qui lui est donnée, d'y répondre. Je crois que, pour le coup, c'est à sa famille et à la société qui l'entoure de pouvoir lui redonner, finalement, d'une certaine manière, cette liberté et manifester ce que, dans sa liberté, elle ne peut, enfin, dans son absence de liberté, elle ne peut peut-être pas manifester. Je crois quand même aussi. Je parlais du toucher, du contact avec le toucher. Ça reste peut-être quelque chose qui est vraiment et c'est beau hein, aussi, dans le présent. Mais je pense que la personne handicapée profonde, quand elle est en relation avec quelqu'un, qu'elle sait qu'elle est aimée, dans son toucher, il y a une réponse hein, qui est sûrement une façon de répondre à cette existence qui lui est donnée. Et elle peut y répondre parce que par ailleurs, il y a quelqu'un à côté d'elle hein, qui lui permet de donner cette réponse.
Alors, est-ce que justement là, il n'y a pas quelque chose qui vient un peu de déplacer ou questionner la philosophie qui a pensé peut-être la liberté de manière trop bavarde, si j'ose dire, et aussi le logos, la raison, de manière trop conceptuelle. C'est-à-dire que le lieu du logos et l'expression du logos, c'est le discours articulé. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions de la raison, d'exercice finalement aussi de l'intelligence? Corinne Peluchon a écrit un livre qui s'appelle justement « La raison sensible », où elle reprend son expérience avec des personnes polyhandicapées, où l'on n'est pas dans le registre de la parole articulée, du logos logique, mais d'une autre forme de logos, qui est une sorte de logos qu'on peut appeler pathique, en tout cas, voilà, si on prend raison sensible. Et là, on découvre qu'il y a des dimensions de la raison, une ampleur de la raison qui ne se réduit pas du tout au domaine spéculatif, scientifique, et qui est peut-être encore plus décisif dans tout ce qui est justement cette relation. La raison passe par le toucher, par des choses qui sont tactiles et tacites en même temps.
Oui, je crois que ça éclaire beaucoup de nos discours, d'ailleurs. Peut-être qu'on dit beaucoup de choses qui ne veulent pas dire grand-chose. Je pense que profondément, notre capacité rationnelle, elle est faite quand même pour nous rejoindre, permettre de rejoindre l'être, ce qui est. Et que cette capacité de rejoindre l'être, elle s'inscrit pour nous dans notre corps, et donc, c'est vrai, d'abord dans ce registre de la sensibilité, qui est toujours une sensibilité humaine. Je pense qu'on n'est pas simplement dans un registre de pure sensorialité, puisque derrière la sensorialité qui s'exerce, il y a une personne. Et l'être humain est fait pour contempler. Alors c'est vrai que contempler ne veut pas simplement dire être en silence, même si je crois que la contemplation profonde, à un moment donné, appelle au silence hein, et demande le silence de la raison, puisqu'on a atteint quelque chose qui est plénifiant.
C'est d'ailleurs ce que dit beaucoup Heidegger à la fin de sa vie. Il dit que finalement, le déploiement de la pensée s'est fait trop sur le mode logique et pas assez sur le mot, alors sur le mode qu'il reprend du grec cygétique, hein, c'est-à-dire sur un mode qui est celui de ce silence qui est dans l'écoute d'abord.
Mais il y a le silence, et pourquoi ce silence est quelque chose qui dit quelque chose? C'est parce qu'en effet, il rejoint l'être. Voilà, c'est... La personne handicapée, elle a une présence qui, encore une fois, n'est pas celle du discours, mais qui est vraiment celle de la présence à l'être, de la présence à soi, alors peut-être pas à soi par l'intermédiaire de la présence à l'autre. Je ne sais pas si je suis très claire.
Moi, ça me fait penser à quelque chose, en fait. À la fois à ce qui se joue, par exemple, chez le poète, hein, qui est du côté, non pas de qu'est-ce que c'est, je cherche à définir, mais de l'être même des choses, et donc qui ne cherche pas à avoir un discours simplement adéquat, mais d'une certaine façon à faire alliance avec ce qui est présent. Mais je pense aussi à une autre situation, qui est la situation de l'adoration eucharistique. Présence silencieuse devant la présence qui est elle-même silencieuse, et pourtant c'est le Verbe qui est là. Est-ce que d'une certaine façon il n'y aurait pas quelque chose comme à travers le contact, la fréquentation, la familiarité avec les personnes handicapées et celles qui sont prises de toute façon plus ou moins dans une forme de mutisme, quelque chose qui est une pré-adoration eucharistique, ou même quelque chose qui est de l'ordre, enfin, qui est analogue à l'adoration eucharistique et qui aurait presque sur nous les mêmes vertus.
Oui, je pense. Je pense en effet que les personnes qui sont habituellement en contact avec des gens qui sont dans le silence ont cette attitude profonde de contemplation, voire d'adoration, hein, en donnant à ce mot peut-être une certaine souplesse. Oui, et avec un sens du temps qui est beaucoup moins agité que le nôtre. Oui, il y a un enracinement dans l'existence et dans ce qui est présent, qui est très, très, très fort. Alors, il me semble en même temps que si on peut vivre cela, et c'est mystérieux parce que la personne handicapée, manifestement, ne peut pas développer un langage très élaboré et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Je pense quand même que nous, en tant qu'accompagnants, cette personne, si nous pouvons vivre à ce niveau, vivre la relation avec la personne handicapée à un niveau qui soit celui de la contemplation, celui d'une forme d'adoration, vraiment d'une relation à la personne qui se fait au sein du silence, ben c'est quand même que nous avons réfléchi. C'est là où c'est mystérieux, c'est que pour nous, je crois que ça demande quand même cet effort de la rumination de ce qui se passe, de ce qui est en jeu, et d'avoir pu mettre des mots sur ce qui est vécu, parce que sinon ça serait d'ailleurs très brutal, et ça serait pas très humain. Je crois qu'on a vraiment, nous qui avons la parole, qui avons le logos, presque la tâche de mettre des mots sur ce qui se passe.
Sinon, on encourt le danger de tomber de toute façon dans une sorte de sentimentalisme qui peut aussi bien se retourner dans la révolte en quelque chose d'exterminateur, finalement.
Tout à fait, parce que c'est très très brutal, une personne qui ne parle pas. Ou alors, on va englober, et c'est un petit peu un risque dans la pensée de Corinne Peluchon, justement, on englobe la vie animale au même titre que la vie humaine.
Alors on va en reparler, puisqu'on avait parlé de la petite chèvre et de la question de Quasimodo. Mais juste avant, justement par rapport à ce sentimentalisme, est-ce qu'il n'y a pas justement un danger du compassionnel? C'est-à-dire que le compassionnel qui va nous faire nous tourner vers le pauvre handicapé, qu'on regarde un peu de haut, bien sûr, on se penche vers lui, on est touché, on est blessé, on est plein de compassion. Mais en même temps, ce même compassionnel, s'il n'est pas enveloppé, porté par l'intelligence, comme vous le dites, penser aussi, il peut très vite se retourner dans le compassionnel de l'avortement, de l'euthanasie, de il vaut mieux qu'il ne vive pas, sinon il va trop souffrir, etc. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'il y a un enjeu fondamental à penser à partir de ce lieu-là et à accompagner ce lieu-là par la pensée.
Par la pensée. Et du coup, de rejoindre vraiment que c'est une personne. C'est pas simplement, en effet, quelqu'un qui souffre et qui a besoin d'être entouré d'un bien-être, que justement on pourrait amener jusqu'à le supprimer pour qu'il soit mieux.
C'est ça, voilà. On ne serait pas dans ce sort de magma, confusion fait, sentimentale.
Par ailleurs, je crois que c'est vrai que la relation avec la personne handicapée ou la personne souffrante, très vite, si on y va simplement parce qu'on est dans le mouvement de compassion, de pitié, on va lui faire du bien, je ne crois pas que ça tienne longtemps. Et que, de fait, ça peut ensuite se retourner de façon très brutale parce que cette personne, comme elle est difficile à vivre, en effet, on va avoir envie de la supprimer. Si on y va que je vais lui faire du bien.
Ah bah oui, à la fin, si c'est moi qui fais,
on n'est plus dans l'accueil de la personne qui m'apporte quelque chose.
Oui. Oui, le faire ultime du bien par soi-même, sans réceptivité, c'est un fantasme démoniaque, justement.
Voilà. Et destructeur. Enfin,
Thomas d'Aquin dit justement que le péché de l'ange, c'est d'avoir voulu faire le bien par lui-même, par ses propres forces, sans aucune réceptivité aux données de la création et du créateur. Donc ce serait terrible, effectivement.
Et puis, en effet, c'est l'autre personne handicapée n'est que l'occasion pour moi de déverser ma supériorité, finalement, et mon soutien et mon aide, alors que on est vraiment à égalité.
Oui, il y a des objets compassionnels, finalement. Il y a une réduction de l'autre à l'objet à partir même d'une compassion sans pensée.
Il y a même un risque, je crois, c'est vrai, moi-même, j'ai pu le faire, de mettre en avant, comme on dit, Jean Vanier a souvent cette parole, le don de la personne handicapée. Et c'est vrai qu'il y a un don de la personne handicapée de nous révéler l'essentiel. Que ce qui est important, c'est qu'on est des personnes et que notre niveau de diplôme, nos capacités humaines, leur degré de perfection, ce n'est pas l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose de très fort. La personne handicapée, elle met ça en avant. Mais il ne faudrait pas, du coup, c'est un risque dans certaines personnes, enfin, certains cas, de dire, ah ben voyez, les personnes handicapées, c'est bien parce qu'elles nous révèlent l'essentiel. À la limite, le bien de la personne handicapée, du coup, c'est qu'elle a un rôle utile
Oui, un utilitarisme, on pourrait dire spirituel en disant voilà. La personne handicapée nous ramène voilà, à la simple, bien. Ce que j'ai pu écrire d'ailleurs moi-même, mais alors oui, je vais me confesser ici publiquement, mais elle nous ramène à la simple joie de vivre et non pas au plaisir de la réussite ou à nos réussites concurrentielles. Bien sûr, cette conception utilitariste est problématique.
En fait, voilà. Et alors qu'on veut par là même donner en avant et mettre en avant le don de la personne handicapée, en fait, on risque d'en faire quelque chose d'utile, d'utilisable, alors que c'est parce qu'il y a des personnes.
Oui. Ouais. Avec cette logique-là, d'ailleurs, ça pourrait se retourner. On pourrait dire, on va faire naître biogénétiquement ou en éprouvette des personnes handicapées pour maintenir dans certains lieux des moyens de revenir à l'essentiel, par exemple. On peut imaginer cette chose.
Alors, sans aller jusque-là, remarquez qu'il y a certaines personnes qui vont dire, mais à force de supprimer toutes les personnes handicapées, en effet, il va manquer un aspect important de la vie humaine dans l'existence humaine.
Produire.
Voilà, donc ça c'est l'envers de ce qu'il y a de positif. Non, ce qui est important, c'est la personne, et la personne elle est unique. C'est là où en effet.
Alors justement, il y a eu d'autres pensées. On a parlé de l'utilitarisme. Je pense une autre manière d'approcher le problème. On a parlé des animaux aussi. Il y a eu cette démarche notamment de Peter Singer par exemple, à la suite de Jeremy Bentham, l'idée de proposer. On pourrait dire une éthique minimale, de pas dire on va parler de la personne humaine, parce qu'on sait très bien, ou de la nature humaine, parce que dès qu'on a voulu dire, voilà, ceci c'est la nature humaine, on a exclu certaines personnes. Dire personne, bah oui, mais il y a des êtres dont on n'arrive même plus à voir la personnalité. Donc, non, on va considérer chaque être, et notamment... Donc les humains, et on va dire, bah oui, le fœtus, je dois considérer ses propres intérêts, je dois considérer la personne handicapée. Pourquoi ? Parce qu'elle est un être sensible d'abord, et capable de souffrir, et donc je dois en prendre soin à ce titre-là. Donc il y a une première étape, on pourrait dire, de prise en considération, non pas à partir de l'autonomie, non pas à partir de la raison en acte, mais à partir de la sensibilité. Mais ce qui se passe dans cette pensée, c'est que si on dit, tout être sensible doit être l'objet de nos soins, donc on va étendre cela aux bêtes, ce qui du reste n'est pas un problème. C'est-à-dire, l'éthique doit considérer aussi notre rapport aux animaux et attaquer toute forme de maltraitance. Mais il va se jouer après en retour dans les calculs des utilitaristes de dire, après tout, une bonne vache laitière qui en plus a la pleine maturité, a beaucoup plus conscience de la suppression de sa vie et en plus ce serait un plus grand préjudice pour la société que la disparition d'une personne qui serait entièrement handicapée et qui en plus, pour elle-même, parce qu'il ne dit pas par rapport à nous, il dit pour elle-même, mourir, elle s'en apercevra même pas, ou à peine, donc c'est un moins grand préjudice pour elle. Alors, est-ce que on pourrait dire qu'on ne peut pas échapper, d'une part, à une certaine définition, parce que là, c'est l'idée qu'on balaye toute définition, et donc on est face au singulier, mais malgré tout, là, on revient à l'idée de l'être sensible, alors on cherche d'autres choses, mais est-ce qu'on ne doit pas, malgré tout, revenir à une définition, mais une définition qui n'est pas celle de l'autonomie en acte ?
Vous avez tout à fait raison, il faut revenir à une définition. S'il n'y a pas le renvoi à un ordre de l'être, les critères qu'on va employer seront toujours aléatoires, d'une manière ou d'une autre. Il y aura toujours à un moment donné où est le curseur. Donc c'est vraiment parce que c'est un homme et donc une personne.
Parce que c'est un fils, on le disait.
Donc, oui, parce que c'est un fils.
Par l'appartenance charnelle, finalement.
L'appartenance charnelle. Mais alors pourquoi respecter la nature humaine plutôt que la nature de la vache ? Là ensuite, il faut quand même aller plus loin. Je crois qu'on revient toujours à cette idée, c'est que la nature humaine donne à des êtres qui sont capables, encore une fois, de cette conscience... de cette vie personnelle. Et quand ils n'y sont pas capables, quand ils n'en sont pas capables, je crois qu'on est toujours devant cette réalité ontologique d'une existence. Et ici, on est en lien avec la métaphysique, qui est une existence pour l'éternité. On n'est pas, encore une fois, devant l'ordre d'un objet qui a une existence limitée et qui, de fait, peut être vu comme un moyen par rapport à autre chose. Je crois que... Notre existence, l'existence humaine, quand elle a commencé, ensuite, pour l'éternité, en raison même de cette nature de l'être humain. La substance individuée de nature rationnelle. La nature rationnelle sous-entend encore une fois des facultés qui dépassent l'ordre de la corporéité, tout en l'utilisant, tout en l'actualisant. Nous sommes vraiment devant une réalité qui transcende tous nos utilitarismes. Nous sommes pour l'éternité. Et bon, derrière la filiation reçue à partir de nos parents, il y a sûrement une donation première, qui est la donation de l'être.
Est-ce que, maintenant j'en appelle aussi à la logicienne que vous êtes, puisque vous êtes aussi occupé de logique dans votre enseignement, est-ce que il n'y aurait pas deux manières de définir, une manière de définir qui prétendrait d'une certaine façon épuiser l'intelligibilité des choses, et à ce moment-là, dès qu'on est face à quelque chose qu'on ne comprend plus ou qui vient nous dérouter, on dit bah tiens, c'est hors définition, donc par exemple ça n'est plus un homme parce que ça ne répond pas à la définition qu'on a donnée. Et une autre manière de définir qui ne prétend pas épuiser l'intelligibilité, mais de réserver une spécificité qui est à l'intérieur de ça comme un enclos, comme une clôture qui permet de protéger finalement l'essence et la manifestation singulière de chaque type d'être.
Oui, je crois qu'on est un peu dans cette différence que vous évoquez entre ce que j'appellerais une définition de type empiriste, où finalement notre définition ne sert qu'à encercler une catégorie d'individus, on les met ensemble en raison de certaines caractéristiques qui renvoient à des descriptions finalement. Et dans ce cas-là, c'est évident que si vous ne correspondez pas à ces caractéristiques, qui normalement font le tour de la classe ou de l'ensemble que je veux définir, dans ce cas-là, vous êtes hors humanité. Alors que si vous interrogez le fait qu'il y a quelque chose que nous avons en commun, qui est d'être de nature humaine, que vous essayez de définir cette nature et non pas simplement de caractériser un ensemble d'individus par des caractéristiques communes, là, c'est vrai qu'on est devant quelque chose qui fait que notre intelligence est mesurée par plus grand qu'elle. Qu'elle peut pas, à travers ce qu'elle appellerait sa définition,
qu'elle peut se laisser surprendre.
Et encore une fois, quand même, qu'elle cherche, elle dit quelque chose. Quand je définis l'homme et que je le définis comme un animal de nature raisonnable, parce qu'il est à la fois corps sensible et être rationnel, à la fois je dis tout ce qu'il est et ce qu'est tout être humain. Et en même temps, ça laisse la possibilité que soit un homme la personne qui ne dira aucun mot de sa vie, et celle qui sera un prix Nobel, Bach aussi bien que Vincent.
Mais on peut dire que du point de vue de cette anthropologie-là, Bach ou Einstein et Vincent ont au fond la même capacité intellectuelle.
Oui.
Ce qui fait défaut, finalement, c'est la capacité de l'exercer à cause de certaines lésions du corps comme instrument, on pourrait dire, conjoint de l'intelligence,
de l'activité intellectuelle,
de telle sorte qu'on pourrait dire, voilà, on a des deux côtés deux bûcherons musclés, mais il y en a un qui a une hache parfaitement aiguisée et l'autre qui a un instrument émoussé. C'est ça, en fait.
Mm-hmm. Oui. C'est mystérieux, mais c'est le corps qui limite ce que nous avons de spirituel dans son expression. Vous avez raison, on ne mesure jamais l'intelligence.
Donc la chair, on pourrait dire, est à la fois du côté de la spécification. Je suis né d'un homme et d'une femme. Je suis humain, quelles que soient mes capacités. Ce n'est pas à la mesure de telle ou telle caractéristique empirique que je peux le mesurer. Mais de l'autre côté aussi, la chair marque aussi ce qui peut marquer dans l'exercice des capacités, des inégalités évidentes, qui ne sont pas d'ailleurs forcément, dont l'échelle n'est pas simplement entre le handicapé et le non-handicapé, puisque Aristote dit même ceux qui sont des esprits déliés, c'est ceux qui ont eu des chairs finalement plus
mollesses, carnesses,
plus déliées, plus tendres, je ne sais pas comment traduire. Donc il y a vraiment à la fois penser l'homme comme être de chair, hein, à la fois ce qui le réserve dans son humanité du fait de la chair, mais en même temps ce qui aussi peut créer cette inégalité. Justement, peut-être à la limite, ce questionnement, est-ce que c'est encore un homme, la chair est à la fois ce qui va faire naître ce questionnement, puisqu'il y aura des capacités limitées, mais en même temps ce qui nous fait dire que c'est bien un homme.
C'est bien un homme. C'est en effet tout le paradoxe de l'existence humaine, d'être à la fois ce qu'il est par sa chair et en même temps la limite qu'elle lui apporte. En même temps, j'ai envie de dire, dans le handicap, il y a bien une limite, mais qui est vraiment liée au handicap et donc à un mal, hein, quelque chose qui s'est opposé finalement à un développement normal. Mais il y a toutes les variétés individuelles, ce que vous disiez déjà, il y a toutes les variétés individuelles qui ne sont pas, c'est pas des préjudices, hein. Heureusement, on est tous différents. Je crois que ce que permet, à travers les limites du fait que j'ai tel corps, que nous avons chacun tel corps et que nous avons des talents et des défauts différents, c'est pas dans l'ordre du plus ou du moins. Encore une fois, ce qu'apporte la personne, il n'y a pas de comparaison. Alors ensuite, c'est vrai qu'on va mesurer, on va dire qu'il y a des gens qui ont un exercice intellectuel plus délié,
plus doué dans plus, tel
voilà,
domaine.
Il y a des génies. Mais je crois qu'on a tous besoin les uns des autres et que le génie tout seul, il serait malheureux. Il a besoin qu'il y ait, comme dans une abbaye, hein, il y a le père abbé, les prêtres, puis les frères convers. Et je crois qu'il faut bien qu'il y ait c'est dans le politique, Platon dit, la communauté, elle est faite d'un tissage où finalement chacun est différent. Et c'est parce qu'il y a des différences que le tissu va pouvoir se faire.
La beauté de cette diversité-là, la beauté de l'Église, disons, liée aussi à sa hiérarchie aussi, hein, parce que c'est comme dans un corps, différents organes
membres, voilà,
hiérarchisés, mais qui vont ensemble. La beauté de l'Arche de Noé, ouais, toutes les espèces sont
avec
présentes.
Le refus de ce que vous appeliez la chair, finalement, il y a un besoin d'égalité qui, à un moment donné, devient lui-même, en effet, mortifère par rapport à la compréhension de l'homme, même handicap mis de côté. Hein.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement c'est un niveau plus philosophique, plus métaphysique même, qu'il s'agit de découvrir justement que le nom de personne n'est pas un genre. C'est-à-dire qu'on compare à l'intérieur du même genre, hein, on peut faire des comparaisons parce que ça appartient au même genre, parce qu'il y a une forme d'homogénéité, mais dès qu'on dit personne, alors à la fois on décrit un certain type de nature, de substance individuée, rationnelle, dans ses capacités profondes, en tout cas, pas forcément dans l'exercice quand il s'agit de l'homme, puisque c'est uni à une chair qui peut empêcher accidentellement cet exercice. Mais derrière le mot personne, on renvoie à l'intérieur donc de cette nature à ce qui est incomparable finalement, à ce qui n'est pas un genre, parce que justement, finalement, dès qu'on est du côté du nom propre, on est plus dans le nom commun. Dès qu'on est face à un visage, par exemple dans l'expérience, on pourrait dire de la beauté, qui est presque l'expérience inverse, l'expérience d'Esmeralda justement, et non pas de Quasimodo, mais face à Esmeralda, on ne pense pas face à quelqu'un de beau, de le comparer vraiment. Quand on fait cette expérience-là, il y a de l'incomparable. On est face, on pourrait dire, au jaillissement même de l'existence dans ce qu'elle a d'incomparable.
Oui, et moi ça m'évoque toujours qu'en effet l'être, ce qui est premier, aucun de nos concepts en effet ne pourra en tant que tel en faire le tour. Il n'y a que le prénom.
Le prénom de la personne.
Le prénom de la personne.
Voilà. On peut avoir le même prénom.
Oui, mais on est unique malgré
mais
tout.
Mais la manière de désigner du nom propre n'est pas la même que celle du nom commun. Juste une dernière question qui est encore du côté de la logique et d'une définition classique. Hein. L'homme est un animal doué de raison. Donc effectivement, on a vu qu'en parlant de chair, que c'est l'animal, il ne faut pas le négliger, puisque ça a un rôle fondamental. Et si on l'oublie, on tombe dans l'angélisme et on va exclure de l'humanité des personnes qui ne seraient pas des sortes de rationalité en acte. Mais... est-ce que dans cette manière de définir, il n'y a pas ce problème, vous avez dit, qu'on a l'impression qu'il y a deux parties séparées. On pourrait dire un étage qui est l'animalité et au-dessus la rationalité. Et à un moment, j'ai été interpellé par ce que vous disiez, c'est-à-dire notre sensibilité, notre animalité est humaine. Elle est déjà humaine. Ce n'est pas comme si on était des sortes de singes supérieurs avec en plus, cerise sur le gâteau, la raison.
J'allais dire reprendre votre définition parce qu'on n'est pas un animal doué de raison. On est un animal rationnel. Hein, et au plan logique, la différence spécifique, on dit contracte le genre. Donc ça veut dire que toute notre animalité, en effet, est l'animalité d'un être rationnel. Nous ne sommes pas mus par l'instinct de la même manière qu'un animal. Notre sensibilité, vous l'aviez dit tout à l'heure, hein, notre toucher est spécifique de l'être humain, d'une finesse incroyable. Nous avons vraiment une animalité qui est dans toute son extension humaine. Encore une fois, je crois que la définition ne veut pas dire qu'il y a deux choses qui s'ajoutent l'une à l'autre, mais c'est deux manières de dire la même réalité. C'est inséparable. Mon animalité, elle est rationnelle, et ma rationalité, ma vie spirituelle, elle est celle d'un être sensible. Je ne peux pas séparer. J'ai deux mots parce que mon intelligence, elle passe par deux concepts différents, mais la définition veut dire que c'est une seule chose.
Tout ça est unifié, même dans le moindre acte de connaissance, qui fait que voyant telle couleur et telle figure, je dis c'est une maison, c'est un visage. Déjà mon intelligence s'exerce.
Elle est présente.
Elle est présente. Merci, Bénédicte. Nous allons maintenant essayer d'être ouverts à la singularité des êtres et à reconnaître l'humain partout où il naît. C'était Entre nous soit dit. Une émission présentée par Fabrice Adjadj avec aujourd'hui Bénédicte Matona et toujours à la technique la silencieuse mais irremplaçable Marlène Caron. À très bientôt.